À la fin des années 1980, la Floride est la plus grande plaque tournante du trafic de cocaïne aux États-Unis. Les règlements de compte entre gangs y sont monnaie courante. Lorsque la région connaît une escalade de la violence, la police demande l'aide du FBI. Ensemble, ils devront arrêter des dealers qui n'ont plus peur de rien, même lorsqu'ils risquent d'y laisser leur peau. Vous écoutez les dossiers du FBI, règlement de compte. Première partie.
Fort Myers Beach en Floride, le 18 juillet 1987. C'est samedi soir dans ce centre de villégiature où abondent bars et discothèques et où le commerce de la drogue est particulièrement développé. Les habitants de la ville évitent les lieux touristiques et préfèrent faire la fête entre eux dans leur résidence. Certains d'entre eux y consomment de la cocaïne. Au cours d'une de ces réunions, quelques hommes attendaient le retour d'un de leurs amis parti chercher de la drogue. Il était parti depuis une demi-heure quand ils entendirent ce qui semblait être des coups de feu vers 22h. Celui qui avait prêté sa voiture pour aller chercher de la drogue aperçut son véhicule garé devant la maison. À l'intérieur, il y trouva son ami tué par balle. Le service de police de Lee County dépêcha immédiatement des policiers sur les lieux. Un expert judiciaire ne trouva qu'une empreinte digitale identifiable sur la voiture, celle de son propriétaire. Près de la portière du conducteur se trouvaient plusieurs douilles de calibre 22. Les enquêteurs constatèrent que la victime avait été tuée à bout portant. Lors de l'autopsie, on trouva 8 blessures par balle dans le haut de son corps et des traces de cocaïne dans son sang. Le propriétaire de la voiture déclara que la victime était son ami Craig Caron, âgé de 29 ans. À contre-cœur, il admit au détective de la brigade des homicides que Craig était allé lui acheter de la cocaïne. La petite amie de la victime suggéra aux policiers d'interroger l'homme qui vendait habituellement de la drogue à Craig. Celui-ci lui devait de l'argent. De plus, le vendeur avait la réputation d'être violent. Tom Continos, détective au service des homicides de Lee County, apprit que celui-ci s'appelait Jeff Siganek.
Jeff était un jeune homme de Fort Myers Beach. Il était devenu un vendeur de drogue assez important dans ce secteur. En parlant aux amis de Craig, la victime, j'ai appris qu'il devait à Siganek une importante somme d'argent. Et lorsqu'on ne payait pas Siganek, on savait qu'il allait vous envoyer quelqu'un pour venir chercher son dû.
Le lendemain, un visiteur inattendu se présenta au service de police. Il s'agissait du présumé vendeur de cocaïne lui-même, Jeff Siganek, 23 ans. Il demanda à parler au détective assigné à l'enquête du meurtre survenu la soirée précédente. Il désirait faire une déposition. Siganek avait des antécédents judiciaires. Il avait appris qu'on le soupçonnait d'être impliqué dans l'affaire et désirait mettre les choses au clair avec la police. Il déclara qu'au moment du meurtre, il était au restaurant avec sa petite amie. Il ajouta qu'il avait parlé à la victime dans le stationnement du restaurant juste avant d'y entrer. Après quelques minutes, Craig Caron était parti. Selon Siganek, il s'était trouvé dans le restaurant entre 21h45 et 23h. Pour appuyer ses dires, il remit au détective le reçu du restaurant. La serveuse corrobora ses affirmations. L'alibi de Jeff Siganek semblait solide, mais fort de son expérience, le détective trouva qu'il dépensait beaucoup d'énergie pour se disculper.
Quand ce jeune homme s'est présenté à moi et qu'il m'a donné son alibi, le nom de ses témoins et le reçu de caisse du restaurant, j'ai immédiatement mis son nom en haut de ma liste des suspects.
Après avoir recueilli quelques informations, le détective interrogea un musicien d'un groupe rock, lui aussi reconnu pour vendre de la cocaïne. Celui-ci déclara que la victime lui avait déjà acheté de la drogue directement, sans aucun intermédiaire, ce qui avait rendu furieux Siganek, le plus important vendeur de drogue de la ville. Il n'acceptait pas de perdre des ventes. Siganek était allé au bar où le musicien donnait une prestation avec son groupe. Il ajouta que Jeff Siganek s'était vanté de s'être débarrassé de la victime pour donner une leçon aux gens de Fort Myers Beach. Le témoignage du musicien n'était qu'un des nombreux témoignages qui corroboraient les soupçons des enquêteurs. Mais même au cœur du monde interlope de Fort Myers, les rumeurs et les insinuations ne constituaient pas des preuves. Un an après le meurtre, soit à l'été 1988, le détective obtint enfin ce qu'il voulait. Une jeune femme déclara avoir été témoin du meurtre. Elle n'avait pas parlé plus tôt parce qu'elle était toxicomane et que son fournisseur était Jeff Siganek. Elle avait cessé sa consommation de drogue depuis et désirait raconter au détective ce qu'elle avait vu le 18 juillet 1987. Elle était en route pour rejoindre ses amis à la soirée quand elle avait été témoin de la fusillade. L'homme qui avait fait feu sur la victime était son ex-petite amie. Il travaillait pour Jeff Siganek. Malheureusement, il était impossible de l'interroger puisqu'il s'était suicidé quelques mois après le meurtre. La jeune femme ajouta qu'elle disposait d'informations de première main à propos de Jeff Siganek et de son gang. Selon elle, Siganek et son bras droit géraient leur commerce de drogue à partir d'une pizzeria dont Siganek était propriétaire. Le vendeur cachait sa drogue et son argent à divers endroits pour brouiller les pistes. D'ailleurs, peu de gens savaient où il vivait. Il y avait plusieurs personnes à l'emploi de Siganek, mais elle n'en connaissait que quelques-unes. Son ex-petite amie faisait partie de ce groupe de personnes engagées pour répondre à toutes les demandes de Siganek. Comme il était impossible de corroborer les déclarations de la jeune femme par le témoignage d'une autre personne ou par des indices concrets à l'appui, le détective ne pouvait pas faire accuser Jeff Siganek de meurtre. Le détective demanda alors l'aide de la brigade des stupéfiants de Lee County. On commença à surveiller la pizzeria de Jeff Siganek dans l'espoir de trouver quelqu'un qui accepterait de témoigner contre le vendeur de drogue. Pour compliquer encore plus la situation, Jeff Siganek avait légalement changé de nom pour celui de Jeff Matthews, sans doute pour prendre ses distances de son passé criminel.
Jeff voulait qu'on croie qu'il était un homme d'affaires respecté.
Détective Tom Continos.
Il est même allé jusqu'à changer son nom de Siganek à Matthews, dans l'espoir de se refaire une réputation.
Au cours des semaines qui suivirent, les enquêteurs identifièrent les individus qui fréquentaient la pizzeria mais qui n'y mangeaient jamais. L'un d'eux y allait très souvent. En vérifiant la plaque d'immatriculation de sa voiture, on découvrit qu'il s'appelait Stephen Franken. Peut-être celui-ci pourrait-il devenir une voie d'accès à Jeff Matthews. Les enquêteurs appelèrent l'agent spécial Dennis Ballum de la brigade des stupéfiants qui connaissait déjà Stephen Franken. Même si on ne disposait pas de preuves, on croyait que Franken était revendeur de drogue et qu'il se procurait sa cocaïne auprès de Jeff Matthews. Pour établir un lien entre les deux hommes, l'agent Bollum approcha un informateur qui connaissait bien Franken.
Selon un de nos informateurs, Franken vendait de la cocaïne à partir de sa maison sur la rue Hibiscus à Fort Myers Beach. Il avait une clientèle assez importante qui provenait de tout le secteur.
L'informateur de la police qui avait été arrêté depuis peu pour possession de drogue était l'un des plus importants clients de Stephen Franken. On lui proposa d'acheter de nouveau de la drogue à Franken, en échange de quoi il serait mis en liberté conditionnelle. Cette transaction permettrait aux agents de faire arrêter Franken et de tenter de le convaincre de témoigner contre Jeff Matthews et son gang. Après quelques transactions de vente de cocaïne, les agents de la brigade des stupéfiants en avaient assez pour procéder à l'arrestation du vendeur. Le 25 août 1988, les agents obtinrent le mandat d'arrestation de Stephen Franken pour la vente et la distribution d'une substance illégale. Une fois Franken en détention, ils fouillèrent sa maison. Ils y trouvèrent des sachets de cocaïne, des balances et de l'argent liquide. En échange d'une peine réduite, Franken accepta de coopérer avec les agents. Il reconnut que le présumé meurtrier Jeff Matthews était son fournisseur de cocaïne et se déclara prêt à le répéter devant un grand jury. On le remit en liberté sous caution jusqu'au procès. Pendant que les enquêteurs cherchaient d'autres preuves contre Matthews, des policiers de Collier County furent dépêchés sur la scène d'un crime. Le 2 octobre 1988, un arpenteur géomètre avait découvert un squelette humain dans un site d'enfouissement. Le corps semblait avoir été abandonné depuis plusieurs semaines. Les policiers ne trouvèrent aucun porte-monnaie ni pièce d'identité, mais ils remarquèrent un bracelet de papier au poignet de la victime. Les enquêteurs recueillirent les dossiers dentaires de toutes les personnes dont on avait signalé la disparition. Il fallait espérer que la dentition de la victime correspondrait à celle d'une de ces personnes. On envoya les dossiers dentaires de même que le corps au médecin légiste pour qu'il effectue des comparaisons. Il commença par établir que la victime était un homme de race blanche dans la vingtaine. Il avait été tué à bout portant à la tête avec un revolver de calibre 38. Le médecin légiste examina ensuite le bracelet au poignet de la victime. Celui-ci indiqua que l'homme avait payé son admission pour entrer dans une boîte de nuit de Fort Myers Beach. Grâce au dossier de personnes disparues, on put déterminer que la victime était Thomas Sellers, aperçu pour la dernière fois au moment où il quittait cette boîte de nuit de Fort Myers. Un détective de Collier County alla rencontrer le père de Sellers pour lui annoncer la mauvaise nouvelle. Celui-ci déclara au détective que son fils avait un problème de consommation de cocaïne. D'ailleurs, il croyait qu'il devait 1000 dollars à Jeff Matthews. Mais encore une fois, les enquêteurs ne parvinrent malheureusement pas à trouver de preuves pour corroborer ces informations. Une seule personne était au fait des agissements de Matthews, Stephen Franken, l'homme que les policiers avaient convaincu de témoigner contre le suspect devant un grand jury. Mais son témoignage suffirait-il à faire condamner le vendeur de drogue pour avoir planifié deux homicides ? Le 27 janvier 1990, les agents de la brigade des stupéfiants et du bureau du shérif de Lee County étaient à la recherche de preuves contre le présumé meurtrier et vendeur de cocaïne, Jeff Matthews. C'est alors qu'ils reçurent un appel à propos d'un autre homicide. Vers minuit, un homme qui vidait des cartons dans sa nouvelle maison avait entendu des crissements de pneus devant chez lui. « La voiture ne s'était arrêtée qu'une fois rendue sur son terrain. Le conducteur était mort. Le détective Tom Continos de Lee County fut l'un des premiers à arriver à la maison dans le secteur de San Carlos Park.
Au début, on m'a dit qu'il s'agissait d'un accident de la route et qu'il y avait un cadavre dans la voiture. Mais en y regardant de plus près, j'ai vite constaté qu'il n'était pas mort des suites d'un accident, mais plutôt de plusieurs coups de feu.
Par le numéro de la plaque d'immatriculation, on identifia la victime. Il s'agissait de Stephen Franken, 22 ans, l'homme devant témoigner contre le vendeur de drogue Jeff Matthews devant un grand jury seulement deux jours plus tard. Matthews savait trop bien, semblait-il, que sans Franken, les enquêteurs ne disposeraient pas d'assez d'indices pour le faire inculper des deux premiers meurtres. Maintenant, on le soupçonnait de ce troisième meurtre, comme nous le raconte l'agent spécial Dennis Barlum de la brigade des stupéfiants.
Je crois que le meurtre s'est produit à ce moment précis à cause du procès qui devait avoir lieu sous peu et des informations concernant l'implication de Jeff Matthews dans les meurtres de Fort Myers. Matthews savait que Stephen Franken disposait d'informations précieuses concernant son trafic de drogue.
Mais à présent, Franken ne pourrait jamais dire au grand jury ce qu'il savait sur Matthews. Ce témoin était sans doute mort avant l'accident de voiture. Les détectives décidèrent de fouiller les environs pour trouver l'endroit précis de la fusillade.
Quelque chose s'est produit avant que cet homme ne percute la maison. Sinon, il n'aurait pas eu cet accident. J'ai donc fait à pied plusieurs centaines de mètres sur la route de terre et j'ai fini par trouver ce qui semblait avoir été un barrage routier de fortune.
Des branchages jonchaient la route. Ils avaient apparemment été éparpillés par un véhicule qui était passé par là. Du côté gauche de cette scène, les détectives trouvèrent plusieurs douilles de calibre 22, soit du même calibre que les projectiles qui seraient recueillis plus tard dans le corps de Franken. On découvrit également des empreintes de pas et des traces de pneus provenant d'un véhicule autre que celui de la victime. Les experts en firent un moulage de plâtre pour une comparaison éventuelle dès qu'on disposerait de la voiture d'un suspect. L'emplacement des blessures de Franken indiquait que le tireur avait fait feu sur le conducteur de l'auto.
J'en ai tout de suite déduit que quelqu'un avait dressé ce barrage pour faire ralentir la voiture de telle sorte qu'il puisse surgir des buissons qui bordaient la route et tirer sur le conducteur.
Le tireur savait sans doute à quelle heure Franken partait travailler et quel chemin il empruntait. Quant à la victime, elle s'était vraisemblablement arrêtée brièvement en voyant les branchages sur la route, ce qui donnait au tireur le temps nécessaire pour viser. Stephen Franken était encore en vie lorsqu'il avait accéléré et fini par emboutir la maison. Encore une fois, même si on soupçonnait le vendeur de drogue Jeff Matthews d'être responsable de ce meurtre, les enquêteurs ne disposaient pas de preuves tangibles de son implication. Toutefois, le fait que Stephen Franken soit un témoin du procureur permettait aux autorités d'élargir leur enquête et d'y faire participer le bureau du procureur fédéral et le FBI. Ensemble, ils pourraient mettre au point une stratégie pour prendre le suspect au piège et mettre un terme à ses activités meurtrières. L'agent spécial Guy Notley, aujourd'hui à la retraite, faisait partie de l'équipe des enquêteurs.
Le FBI a tout de suite commencé à travailler sur l'enquête de concert avec le bureau du shérif de Lee County et les brigades des stupéfiants. On ne faisait rien sans en tenir au courant les autres services policiers. Le FBI a fourni tous les effectifs qu'il pouvait. Nous disposions donc du savoir-faire requis pour prendre en charge l'aspect technique de l'enquête.
Matthews était toujours à l'œuvre, mais il se protégeait habilement de tout œil indiscret. La seule façon de le coincer, c'était par le biais de sa vente de drogue ou par ses employés. Malheureusement, depuis le meurtre de Franken, il était pratiquement impossible de trouver quelqu'un qui accepterait de coopérer avec la police.
Ce qui nous rendait la tâche difficile, c'était que peu de personnes désiraient nous fournir des informations de leur plein gré sur Jeffrey Mathews.
Agent spécial Denis Bollum.
La plupart des gens savaient de quoi il était capable et ils le craignaient.
Les agents rencontrèrent un prisonnier dont on croyait qu'il avait fait partie de l'organisation de Mathews. L'homme de Fort Myers Beach, qui purgeait une peine de 10 ans pour possession d'armes à feu, était soupçonné d'avoir été l'un des tueurs à gages de Mathews. Il accepta de dire tout ce qu'il savait à propos du narcotrafiquant en échange d'une peine réduite. Peu de temps avant qu'il n'ait été arrêté, Mathews lui avait demandé de surveiller Stephen Franken afin d'établir l'horaire de ses activités. Avec ces informations, Mathews pouvait réduire Franken au silence avant qu'il ne paraisse devant les tribunaux. Le prisonnier déclara ignorer qui avait commis ce meurtre puisqu'il était derrière les barreaux au moment où il avait été commis. Il parla toutefois aux enquêteurs d'un autre homicide non résolu qui, selon lui, avait été commis par Mathews. Un soir, ils étaient ensemble à la pizzeria après la fermeture du restaurant. Un entrepreneur était en train de changer des carreaux de céramique dans la cuisine. Le tueur à gages avait apporté avec lui un nouveau silencieux pour l'arme de Mathews. Selon lui, le narcotrafiquant avait tué l'entrepreneur tout simplement pour tester son silencieux. Les agents espéraient que Mathews, en rencontrant ce tueur à gages, en viendrait à corroborer cette histoire. Le prisonnier accepta de lui parler au cours d'une conversation enregistrée. Il demanda d'abord à Mathews de lui apporter des cassettes de musique à la prison. Mathews accepta. Les agents étaient prêts à enregistrer et à filmer la conversation. Ils espéraient que Mathews s'incriminerait.
Nous avons reçu les autorisations du bureau du procureur, de même que de la prison, pour installer ces appareils. Mais il n'est jamais venu. Jeffrey Mathews était très difficile à atteindre car il savait qu'il pouvait être surveillé. Il était très bien parvenu à préserver ses allées et venues. Même ses meilleurs amis ignoraient où il habitait.
Peut-être la dernière victime le savait-elle. Mais elle avait été réduite au silence et ce présumé meurtrier était toujours en liberté, prêt à tout pour échapper à la justice.
Vous venez d'écouter les dossiers du FBI. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Les dossiers du FBI est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures. Adapté de la série documentaire audiovisuelle FBI Files, produit par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Lisa Fett et Marc Marabella. Il a été réalisé par Stuart Taylor. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Kosiewicz, Mandy Lebourg et Astrid Verdun, assistée de Marie Agassin. Montage, Johanna Lalonde. Avec la voix d'Olivier Citruc.